Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toutes cultures, de tous milieux, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Michèle Benzeno. Michèle Benzeno est directrice générale de Webedia en charge du développement. Je lui pose la question rituelle, êtes-vous, Michèle Benzeno, une audacieuse ?
Bonjour Carole. Alors, je pense que être audacieuse ne s'auto-programme pas. Je pense que être audacieuse est plutôt lié à sa culture, son éducation et ses rôles modèles. Et donc, je suis audacieuse, je dirais, grâce à mes parents et l'éducation que j'ai pu recevoir. Je suis fille d'immigrés. Mes parents ont vécu au Maroc et mon père est arrivé à 18 ans en France. Ils ont tout construit en partant de rien. Et je suis la dernière petite de la famille. Nous sommes 4 filles. Et je dois dire que cette audace, moi, je la tiens viscéralement de mon papa. Parce que, voilà, jeune entrepreneur, typographe, il a ouvert son imprimerie il avait moins de 30 ans. Et j'ai toujours vu mes parents beaucoup travailler avec énormément de détermination, de culot aussi, beaucoup, et de gentillesse et d'empathie. Et en fait, je pense qu'on est audacieux par cette éducation qui m'a toujours drivée et qui m'a menée dans cette espèce de parfois folie créative où mon père m'a toujours dit que dans la vie tout était possible et que le non n'existait pas. Et je pense que c'est ça qui me drive tous les jours dans cette posture audacieuse.
Quelle était l'ambition de votre papa pour ses filles ?
Mon père a toujours été dans le lève-toi et marche, très ancré dans la terre. Mais toujours avec, moi ça m'a toujours fascinée, cette gentillesse, cette ouverture, ce respect des gens. Et ce sont les valeurs qu'ils nous ont transmises à mes sœurs et à moi, c'est-à-dire être toujours dans le travail. Je dois dire qu'on est toutes des guerrières, c'est un peu le dénominateur commun de la famille. Et donc le travail, le succès par la preuve et le bonheur appelle le succès appelle le bonheur. Et donc toujours le travail me dit toujours, le travail ma fille c'est la santé. Et ça a été mon driver. Et la transmission, voilà, pour lui c'était ça qui était important, c'était de nous forger des valeurs où rien n'arrive par hasard. Et l'héritage, la transmission de la culture, c'était ça qui nous animait. Et personnellement, ça m'a animée depuis mon plus jeune âge. Et pour la petite anecdote, moi je traînais toujours à l'imprimerie de mon père, j'étais assez fascinée par l'écriture, il était très érudit. Il avait travaillé au Monde et au Figaro juste avant de monter son imprimerie. Et il m'avait façonné des cartes de visite d'à peu près toutes les grandes entreprises du CAC 40. Et j'étais déjà CEO à 14 ans. J'étais assez fière. Et c'était justement le début de cette forme d'audace, cette espèce de folie où tout était possible. 14 ans à CEO d'IBM, oui, c'était possible pour mon père.
Comment vous projetiez quand vous étiez une toute jeune femme à 20 ans ? Qui était Michèle Benzeno ? Comment vous voyiez votre avenir à ce moment-là ?
Alors, c'était assez drôle. À 20 ans, j'ai plutôt un parcours universitaire assez académique. Une formation de marketing et de gestion commerciale à la Sorbonne, puis un master à Dauphine, donc très universitaire. Et à l'époque, on était plutôt dans une approche très sélective. Et les écoles de commerce, les grandes parisiennes, avaient déjà le vent en poupe. C'était le Graal pour toutes. En tout cas, c'était pour moi un Graal de pouvoir faire partie des grands et notamment intégrer ce que j'avais appris dans le cadre de mon parcours universitaire. Je rêvais de alors c'est assez étonnant vu mon parcours aujourd'hui, mais je voulais être chef de produit chez une grande entreprise FMCG chez un lessivier. Vous imaginez, donc mon rêve c'était Procter & Gamble. En fait, tout au long de ma formation universitaire, c'était à l'époque le Mercator et on vous apprenait le mix produit, les fameux 4P. Voilà, j'étais assez fascinée par cet instrument marketing. Et je voulais, coûte que coûte, mon ambition du moment, c'était d'intégrer ces grandes entreprises, ces grandes compagnies américaines pour découvrir le marketing. Et en fait, je dois dire que j'ai complètement échoué parce qu'à l'époque, c'était extrêmement sélectif et qu'effectivement, le critère de sélection était plutôt centré sur les grandes écoles parisiennes. Et moi, j'avais plutôt un parcours universitaire, donc j'ai dû écumer pratiquement, donc spontanément, toutes ces entreprises. Et je me souviens, en fait, d'un premier entretien, je pense que j'étais complètement folle. J'avais reproduit en entretien une zone de chalandise de supermarché. Donc, je me souviens, il y avait un grand bureau avec le CMO à l'époque qui me recevait. Et j'avais mis en exergue une zone de chalandise avec tous les produits de la gamme. Je laisse imaginer la tête de l'intervieweur qui s'est dit que je pense que j'étais complètement folle. Mais c'était une forme d'audace parce que je savais que je devais pallier avec un critère universitaire qui ne correspondait pas forcément à ce qu'il voulait. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai lamentablement échoué puisque je ne rentrais pas dans les cases. Et c'est là que tout a commencé. Je faisais mon doctorat, je préparais ma thèse. J'avais une amie de promotion qui avait eu un entretien au Figaro quotidien à l'époque. Donc, ça remontait à plus de 25 ans quand même. L'idée du grand quotidien national, et c'était un job de commercial à l'époque, de chef de publicité, pour entrer dans la sacro-sainte maison du Figaro quotidien. Et pour tout vous dire, j'y suis allée complètement par hasard. C'était absolument pas ma vocation. Mais toujours cette petite voix de mon papa qui me disait « Mais c'est pas grave, il faut que tu travailles, tu dois rentrer dans la vie active, tu vas apprendre. Et puis, voilà, fais-toi confiance et le travail paye. Donc, prends ce job et tu verras bien. » Et voilà, tout a commencé.
Alors, donc, vous avez commencé au Figaro.
Complètement, c'était mon premier job. J'étais jeune chef de publicité, je vais avoir 22 ans.
Vous avez fait un long chemin puisqu'aujourd'hui, vous êtes directrice générale de Webedia. Donc, c'est un très beau titre, une très belle fonction avec sans doute une très belle mission. J'aimerais que vous me disiez, on va sortir un tout petit peu du champ professionnel, deux petites secondes. Oui. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que pour vous, les femmes aujourd'hui sont suffisamment audacieuses, celles que vous rencontrez notamment ?
Je suis contente que vous me posiez cette question, Carole, parce que dans la phrase, il y a un mot qui est essentiel pour moi dans ce que vous venez de dire, c'est le mot « aujourd'hui ». Si vous m'aviez posé la question il y a 10 ans, je pense que je ne vous aurais pas sans doute répondu la même chose. Je pense que le « aujourd'hui » est fondamental parce qu'on est dans une société où finalement, si on n'est pas dans un schéma de l'audace qui est plutôt lié à la force, la persévérance, le courage, la résilience, parfois le côté un peu… pas irrévérencieux, mais je dirais, on a le sentiment quand on est une femme qu'il faut passer en force en permanence, qu'il faut lutter pour s'imposer et pour se décréter être audacieuse. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'excès dans les évolutions. Alors, je ne suis pas féministe, je ne m'autoproclame pas féministe, mais je pense que je suis une femme très engagée, de conviction, mais plutôt dans l'équilibre. Dans l'équilibre avec une ouverture sur le monde. J'ai un esprit critique. Je pense avoir effectivement des convictions, mais toujours avec cette ouverture, sans être dogmatique. Et moi, je crois fondamentalement à l'équilibre entre les hommes et les femmes. Et je dirais qu'aujourd'hui, pour moi, une femme audacieuse, c'est une femme qui assume sans aucun tabou son côté féminin et son côté masculin, qui est dans l'équilibre. C'est ma conviction, elle m'appartient, hein, mais je pense que pour y arriver, pour être audacieuse, on a besoin des hommes et des femmes, et que ce combat, on doit le mener ensemble. Alors après, bien sûr que moi, j'ai évolué, particulièrement chez Webedia, dans un univers très masculin. Donc, je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Mais cette forme d'audace, c'est un, d'assumer qu'on peut être masculin et ce n'est pas grave. Un homme a aussi des côtés féminins et tant mieux. Et que dans cette société où on prône, encore une fois, l'hyperpuissance, moi, je pense que les femmes audacieuses, c'est celles qui vont montrer leur faiblesse, leur vulnérabilité, parce que dire qu'on ne sait pas nous rend encore plus puissantes. Et la deuxième chose, moi, qui me tient énormément à cœur, et j'ai pas mal maturé cette forme d'audace, je pense qu'aujourd'hui, être audacieuse, c'est aussi assumer ce qui nous rend heureuse. Et encore une fois, moi, j'ai toujours été assez binaire dans cette quête, je pense être très ambitieuse, carriériste, je l'assume totalement. Et en même temps, au fond de moi, aujourd'hui, je sais ce qui me rend heureuse, cette fameuse quête du bonheur qu'on recherche tous. Et elle n'est pas paradoxalement forcément statutaire. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Et je pense que être audacieuse, c'est aussi d'assumer ses choix et de se regarder en face tous les matins en disant « j'ai fait ce choix et je sais que c'est ce qui me rend heureuse ».
Alors, vous prenez la mixité, vous l'avez dit avec vos mots. J'aimerais savoir, au sein de votre groupe, on revient sur le champ professionnel, vous devez forcément avoir un rôle dans un certain équilibre entre les hommes et les femmes. Comment vous travaillez cette tension ?
Je pense être dans la force, la résilience, la conviction, mais j'essaie toujours d'être dans un équilibre où je ne suis ni une guerrière, ni une victime. Et je pense que c'est aussi une façon, un symbole d'encourager le dialogue, l'équilibre avec les hommes et de ne pas forcément provoquer, être dans le frontal. On peut ne pas être d'accord, on peut être divergent, etc. On peut mal se sentir. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir m'imposer aussi dans certaines réunions, dans certains projets. Ça n'est pas toujours évident. Et je l'ai toujours fait en contournant, soit par la force de conviction, mais en étant très à l'écoute, mais sans agressivité. Et ça n'est pas parce qu'on est convaincante qu'on va être agressive. Ou bien, quand c'est plus difficile, parfois, le contourner par l'humour ou par l'hypervalorisation. Voilà, toujours valoriser les idées, l'équilibre, la mixité, mais jamais en frontal. Jamais. Sauf quand on passe la... Voilà, et ça m'est arrivé aussi de dépasser les zones rouges. Et dans ce cas, je le traite plus individuellement, mais... Une bonne façon de contourner, c'est toujours l'empathie, la rondeur, tout en étant ferme. Et je dois dire que oui, l'humour est une bonne façon aussi de... Vous avez votre interlocuteur et vous lui donnez un signal fort de « ensemble, on va y arriver ». Voilà, c'est ma façon de faire et d'agir.
Alors, on entend bien vos belles valeurs, on les reprendra tout à l'heure, rapidement, évidemment, en conclusion. Néanmoins, j'aimerais savoir de façon très pratique... Vous avez décrit Webedia comme un univers plutôt masculin et j'imagine que plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est le cas. Est-ce que vous, lors des recrutements, vous avez en tête, ou en tout cas ça fait partie de vos préoccupations, de trouver un équilibre ou de faire en sorte que les équipes soient équilibrées, mixtes, pour utiliser un terme qu'on a déjà utilisé ensemble ?
Webedia est, tu dirais, un groupe aujourd'hui, un leader en Europe dans l'univers du divertissement et des loisirs. Hein, on a préempté ces territoires il y a un peu plus de 12 ans maintenant. On est leader sur l'univers du cinéma, du jeu vidéo, de la cuisine, du lifestyle. Aujourd'hui, on a un métier qui est magique, c'est-à-dire qu'on offre à nos consommateurs, à notre audience, les meilleures expériences de contenu divertissant. On leur permet de rencontrer leurs fans, ils se connectent entre eux, leur communauté, donc c'est assez louable. Et ça reste un secteur de passionnés. Donc, avant même de parler des sujets genrés de mixité, nous, on a une moyenne d'âge chez Webedia qui a 90% de la population à moins de 30 ans. Et donc, c'est formidable parce que ça nous challenge en permanence, cette fraîcheur, cette remise en question en permanence, et puis cette exigence de cette jeunesse qui est assez moderne, qui est justement dans ces valeurs de l'équilibre. Et je trouve que c'est très optimiste pour le futur. Et donc, le recrutement, en effet, et même la façon dont ces jeunes s'imposent chez nous, ça passe non pas par le genre, mais par les compétences. Et ça, je trouve que, parce que chez Webedia, en fait, on est dans une approche, c'est une entreprise qui a grandi très vite. Hein. On est passé de, en 2015, quand j'ai rejoint l'entreprise, on était 500 collaborateurs, on est 3500 aujourd'hui dans le monde. Donc, on a eu une croissance externe exponentielle assez incroyable. Mais on a toujours gardé cet esprit agile, cet esprit de start-up où, que vous soyez une femme ou un homme, chacun a la chance d'entreprendre. On responsabilise énormément les équipes, quelles que soient les fonctions, mais toujours avec une approche très pragmatique d'obligation de résultat. Et on est un peu dans cette approche « lève-toi et marche ». Donc, je trouve que ça efface un peu ces sujets de quotas, de mixité, etc. Parce que quoi qu'il arrive, vous serez jugé sur... vos compétences, vos projets. On n'est pas du tout dans une approche hiérarchique parce que chacun a la chance d'entreprendre chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup impulser aussi dans le recrutement. Voilà, on va attirer des talents, des populations par le prisme de nos métiers. Et après, ensuite, évidemment, ça dépend des départements et des fonctions. On est assez mixte hein, chez Webedia, on est à peu près à la parité. En revanche, moi, mon combat d'aujourd'hui, c'est que vous prenez, par exemple, une verticale comme le food. comparativement à la verticale du gaming, évidemment qu'on n'est plus dans un ratio 47% d'hommes, mais plutôt dans un ratio 25% de femmes sur la verticale gaming, ce qui est deux fois plus important que l'industrie, hein, parce que quand vous regardez les équilibres, notamment chez les éditeurs et les studios, on est plutôt à moins de 10% de femmes aujourd'hui. Puis après, le gros sujet, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie, et malheureusement, moins vous avez de profils féminins. Et donc, sur le jeu vidéo, dont je m'occupe plus particulièrement depuis plus de 2 ans maintenant, notre enjeu, c'est, et toujours pareil, surtout pas de rentrer par les quotas, sujets genrés, etc. C'est comment, de façon naturelle, intuitive et aussi, je dirais, par la compétence, on va intégrer petit à petit des profils féminins. Alors, les développeuses, bon, ça reste très compliqué de recruter des... mais là, il faut remonter aussi à l'enseignement et encourager les écoles aussi qui apprennent à coder, d'aider la jeune enfance, même à l'école. On devrait aussi, je pense, inciter les femmes, les jeunes filles à devenir ingénieurs. On ne peut pas prendre toute la responsabilité chez Webedia. En revanche, moi, depuis 2 ans avec les équipes, on a saupoudré, par exemple, je vous donne un métier... de conduite d'antenne. On a pas mal de chaînes, notamment une web TV sur Twitch. Donc, on produit plus de 60 heures de live par semaine, qui est une chaîne de divertissement qui s'adresse plutôt à une cible plutôt gaming, de geek. Et depuis 2 ans, sur les plateaux, vous pourrez en témoigner. Donc, cette chaîne s'appelle Le Stream, qui est une des premières chaînes dans l'univers du divertissement leader sur Twitch. En fait, on a imposé petit à petit sur les plateaux de mixité, alors que cette chaîne est née, et de toute façon, Twitch est née du jeu vidéo. On est vraiment ancré dans une culture qui est liée au jeu vidéo. Donc, par essence, l'audience de Twitch aujourd'hui, elle a aussi évolué. On est à 90-10 il y a 2 ans. Là, on a gagné 10 points. On est à 80-20. C'est un effort qui est structurant et qui va continuer à progresser. Et nous, on suit cette tendance. Donc, on va recruter des jeunes gameuses qui n'ont pas forcément d'abonnés et qu'on va faire grandir grâce à nous, qui ont des vrais talents, qu'on va mettre à la lumière sur les plateaux en mixité avec nos animateurs, nos présentateurs. La conduite d'antenne, qui est un métier donc qui consiste à tenir un conducteur, faire de la modération sur les plateaux, relancer les animateurs, etc. On a recruté une fille formidable qui tient l'équipe aujourd'hui. Un nouveau visage aussi qu'on a recruté sur le jeu vidéo, peut-être que vous la connaissez, Salomé Lagrelle, qui elle vient d'un univers donc qui est très féminine, et qui vient d'un univers donc Canal, The Voice, Gameblog, mais c'est une gameuse invétérée. Elle joue et c'est sa passion. On l'a recrutée l'année dernière. Elle anime un de nos journaux toutes les semaines, accompagnée de ses acolytes. On s'est posé la question au moment où on l'a mise à l'antenne, mais en fait, on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était une femme ou un homme. Elle est légitime, elle est compétente, elle est gameuse. Et donc, en fait, il n'y a même pas de doute sur le fait qu'elle a tout de suite été adoubée par la communauté. Donc voilà, moi, je pense que le combat, il faut éviter les segmentations et puis les caricatures des quotas. Moi, je suis assez fan et assez militante des discours de Christine Lagarde sur le sujet. C'est vrai que les politiques de quotas dans les conseils d'administration, ça a fait progresser, évidemment, et heureusement, la loi Zimmermann, ça a vraiment fait progresser justement la mixité dans les conseils, dans la gouvernance des entreprises. Mais néanmoins, je trouve qu'on a tendance à tomber dans une caricature de voilà, il faut une femme parce qu'il faut une femme, et je pense qu'il faut être très vigilant par rapport à ça.
Très bien, mais écoutez, on vous a bien entendu, Michèle Benzeno. On entend que l'audace, ça ne se décrète pas, ça fait partie intimement de l'éducation, vous en êtes le témoin d'une certaine façon. Les filles dans la tech, il n'y en a pas tant que ça. Les start-up, c'est 80%, on le sait, hein, 80% des start-up sont dans la tech, ce qui veut dire que l'entrepreneuriat au féminin, ça pose aussi encore question. En tout cas, il y a nécessité de faire avancer ce sujet-là également. On a bien entendu que vous ne souhaitiez pas de segmentation, mais qu'il fallait effectivement que les femmes soient sans doute, et je le dis à ma façon, plus audacieuses pour oser aller sur des terrains qui ne leur sont pas forcément familiers aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien résumé votre propos ?
Exactement, et toujours en partant de leurs compétences, quelles sont leurs valeurs, et peut-être essayer de rééquilibrer ce monde dans la mixité. Très optimiste sur le fait qu'on arrivera à mener ce combat et à faire progresser justement la gouvernance dans les entreprises, parce qu'on a besoin des deux. On a besoin des deux.
Eh bien, écoutez, merci pour cette conclusion. C'est très clair. Vous prenez la mixité et on espère bien effectivement que ça va faire avancer la cause des femmes et des hommes en même temps. Tout est lié. Merci beaucoup Michèle Benzeno et à bientôt.
Merci Carole, à très bientôt.
Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.